France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann.
Comment la société pèse-t-elle sur les individus ? C'est notre série de cette semaine. Hier, nous parlions de l'école de sociologie de Chicago et de l'influence sur celle-ci du penseur Georg Simmel. Voici le deuxième épisode, La contrainte sociale selon Émile Durkheim. C'est une ligne française que nous explorons aujourd'hui. Durkheim est en effet l'héritier d'Auguste Comte, qui lui-même avait été un temps secrétaire de Saint-Simon et avait créé ce mode d'analyse qu'il appelait la sociologie. Auguste Comte disait, au milieu du XIXe siècle, que les connaissances humaines passaient par trois états successifs. Il y avait eu la théologie, puis il y a eu la métaphysique, et enfin, à son époque, était apparu l'état dit positif, où on allait enfin pouvoir étudier l'ordre social sans s'embarrasser de notions surnaturelles ou supraphysiques, et en comprenant d'ailleurs que ces vieilles notions en réalité ne parlaient que de choses sociales, enfin dévoilées comme telles. Émile Durkheim, de son côté, a théorisé la notion de fait social en insistant sur sa double caractéristique. Un fait social est extérieur aux individus et il les contraint, il les oblige à certains comportements. Souvent, les individus n'ont pas conscience de cette pression sur eux du social, mais le sociologue peut mettre le fait social en lumière grâce à des techniques particulières, notamment l'instrument statistique. Bonjour Mélanie Plouvier.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes une spécialiste d'Émile Durkheim, ayant publié notamment avec Frédéric Keck aux éditions Ellipse un livre intitulé « Le vocabulaire de Durkheim ». Et bonjour Claude Didry.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et auteur aux éditions sociales d'un ouvrage intitulé « Découvrir Durkheim ».
Attends que je pisse ce que tu dis. Tu dis que tu donnes jamais de pourliche ?
J'en ai rien à branler que la société dise que ça se fait. D'accord pour donner un pourboire si on fait quelque chose qu'il mérite, si on m'offre un service en plus, je paierai un extra, mais le pourliche qu'on paye automatiquement, ça c'est bidon. Et puis d'ailleurs, ces pétasses, elles font juste leur job.
Mais elle est gentille, celle-là.
Ah ouais, elle est très bien, mais elle a rien fait de spécial.
Mais c'est quoi le spécial ? C'est quand la fille te fait une turlute ?
Je donnerais plus que 10% pour ça.
Écoute, j'ai commandé du café, d'accord ? Eh ben, on est là depuis 2 heures, mais elle m'en a resservi que 3 fois. Et le matin, le café, j'en veux 6 tasses au moins.
6 tasses, merde, tu charries, là, elle a trop de boulot.
Cette expression « trop de boulot », un loufia devrait la bannir de son vocabulaire.
Je veux pas m'en mêler, mais 6 tasses de café, c'est un truc à travailler l'estomac.
Elles font chier, ces merdeuses, elles gagnent leur vie, non ? Elles font une minimum garantie. Quand je grattais au minimum garantie, le genre de travail que j'avais me donnait pas le droit à un pourliche à la con.
Ça t'est égal que ces filles comptent dessus pour s'en tirer ?
Tu sais ce que c'est ? C'est un petit violon pour faire mouiller les serveuses de resto.
Tu te rends pas compte de ce que tu dis, mon pote ? Ces pauvres filles se cassent le cul. Elles ont un sale travail.
Pas plus que dans un McDonald's, mais là, elles ont aucun pourboire. Pourquoi ? Elles font le même boulot. Mais la société a dit, donne un pourliche à celle-ci, mais pas à celle-là. C'est de la pisse de chat.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Vous venez d'entendre un extrait de Réservoir Dogs, ce film de Quentin Tarantino de 1992, film où 6 truands vivent diverses aventures. Et là, on l'a entendu, l'un d'eux s'oppose au fait de donner un pourboire à une serveuse alors que c'est une règle sociale américaine. Cependant, on le voit aussi, ou plutôt on l'entend, contester la règle, même en soulignant son éventuelle injustice, puisqu'elle vaut autant pour les serveurs zélés que pour les moins soigneux, ne passe pas aisément. Et il me semble que c'est très durkheimien, n'est-ce pas Mélanie Plouviès ? Durkheim nous dit « Si tu n'appliques pas certaines règles sociales, fais attention, tu vas voir combien ces règles sont puissantes, tu vas évidemment te faire sanctionner par les autres. »
Oui, cet exemple, cette illustration est intéressante parce qu'on voit là une convention sociale, donnée ou pas un pourboire, une type aux États-Unis, et on voit également la force de résistance quand on n'applique pas une convention, quand on n'applique pas une règle sociale. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une réprobation morale.
Oui.
Les 5 autres truands réprouvent moralement le fait qu'il n'y ait pas de pourboire versé. Ce qui est aussi intéressant dans cette illustration, c'est la variation sociale. C'est-à-dire que, par exemple, donner un pourboire aux États-Unis participe pleinement du salaire de la serveuse. En France, le pourboire est plus optionnel. Donc, on voit bien que les règles sociales varient selon les types de sociétés dans lesquelles on se trouve.
Alors, aux États-Unis, le tip est dans certains États devenu obligatoire. C'est la partie qui signifie qu'on est content ou moins content qui peut varier. Et le tip obligatoire, c'est 10%, par exemple, à New York. Et moi, j'ai entendu des histoires de gens oubliant de le mettre, parce que c'est des Français, hein, chez nous, c'est dans le prix du repas, sortir du restaurant et se faire chercher par le collet pour aller payer leur tip. Donc, dès que ça devient un peu juridique, un peu institutionnel, la sanction n'est pas que morale.
Exactement. Et de ce point de vue-là, hein, Durkheim, dans le premier chapitre des règles de la méthode sociologique intitulée « Qu'est-ce qu'un fait social ?», quand il cherche, donc il commence hein, en cherchant une définition du fait social et en cherchant plus précisément des indices permettant de dire ceci est un fait social, ceci ne l'est pas, va se concentrer sur deux indices que vous avez signalés, l'extériorité et la contrainte. Et dans les cas où la contrainte se fait le plus sentir, c'est effectivement une sanction qui s'applique, une sanction jusqu'à la sanction juridique, quand la règle sociale, quand le fait social n'est pas respecté. Pour autant, ce qui est intéressant dans la typologie durkheimienne, c'est que même pour des faits en apparence moins contraignant, il y a une sanction, même si cette sanction n'est pas juridique.
Et même si
la réprobation morale dans notre illustration de départ est une forme de sanction morale, certes non juridique, mais c'est bien l'attestation de la puissance du social.
Et c'est peut-être cela qui est le plus surprenant et qu'en effet nous voulions illustrer par cet extrait Claude Didry. Pour Durkheim, la sanction sociale qui concerne le non-respect de règles purement sociales, sans même parler du droit, peut être aussi forte que la sanction juridique en cas de règles de droit.
Oui, mais la sanction juridique est une sanction sociale.
Voilà, oui.
Excusez-moi. Et je crois que un autre élément qui peut être intéressant dans le domaine de la sanction, tel que le décrit Durkheim dans les règles de la méthode, c'est sa variabilité. C'est-à-dire que l'important pour Durkheim, c'est que la sociologie, c'est la science qui étudie les faits sociaux. Le pluriel est fondamental à mes yeux. Et ces faits sociaux s'accompagnent en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, de 50 nuances de sanctions.
Vous savez faire de la radio, vous?
J'essaye, hein.
Bon, donc 50 nuances de sanctions, ça veut dire que ça peut aller de la réprobation, du mouvement de menton, à l'insulte et à la sanction physique, violente.
Oui, mais alors là, la sanction violente chez Durkheim, c'est pas le principal de la sanction. La sanction véritable chez Durkheim, c'est la représentation, c'est la conformation de l'individu. La sanction violente n'intervient que dans des formes peut-être plus, si vous me permettez, premières de la sanction sous la forme de ce droit répressif qui caractérise la solidarité mécanique, la conformité de l'individu.
Alors on va parler de tout ça parce que
Dans les sanctions que vous évoquiez, moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est les faits socio-économiques. Par exemple, le fait que l'industriel qui n'applique pas des techniques modernes se trouve sanctionné par l'absence de profit. Ou l'autre élément, c'est le langage qui est un fait social pour Durkheim crucial dans cette présentation, et où la sanction, c'est l'absence de compréhension si je me mettais à vous parler immédiatement en anglais, en espagnol, etc., pour une antenne comme celle de France Culture.
Donc le fait social, il y en a plusieurs sortes, vous venez de le dire, mais vous avez mis le doigt sur un point qui est très important à comprendre, c'est que, bien sûr, Durkheim donne des exemples à l'envers, c'est-à-dire d'individus qui désobéiraient, qui se feraient sanctionner. Mais le classique, c'est que les individus obéissent en réalité. Absolument. Et que le fait social les constitue. Il n'y a pas d'idée d'individu moderne sans acceptation de fait social. Il est constitué par la société. Alors, je voudrais qu'on revienne là-dessus à son itinéraire. Donc, pour bien comprendre cette idée, Durkheim était un normalien philosophe qui, dans les années 1880, a fait un voyage très important pour lui en Allemagne. Il a lu Auguste Comte, il a lu Herbert Spencer. Et très vite, sur quoi voulait-il travailler en thèse? Et je pense que c'était une thèse de philo, en réalité, au départ. Hein. C'était sur l'individualisme. Et ça donnera ce livre de 1893 de la division du travail social. Claude Didry, ce livre vise-t-il à montrer que l'individu moderne n'a pu apparaître avec ses tendances individualistes que parce qu'une société était apparue qui l'avait autorisé à être cette chose-là, c'est-à-dire une monade avec des tendances individualistes?
Oui, mais c'est pas tellement une monade, si vous voulez. Je pense que un des moments importants de la division du travail, c'est sa critique de Spencer sur le contrat. Herbert Spencer, c'est le théoricien des sociétés militaires primitives, originaires, et qui se transformerait en société industrielle reposant sur le contrat et l'individualisme, la poignée de main. On le verrait avec...
Donc Spencer, il théorise un lien social fort, c'est ça?
Un lien social très contraignant? Très contraignant dans les sociétés premières, pourrait-on dire. Mm-hmm. Et il théorise également une forme de libération complète, l'horizon étant peut-être ce qu'on verra en Argentine avec M. Milei, c'est-à-dire une forme de d'individualisme absolu, plus d'État, où on se serre la main, on n'a plus de contraintes, parce que pour lui, l'État...
Donc en fait, c'est pas vraiment un lien social fort, c'est un lien social abîmé pour... J'ai du mal à comprendre.
Je pense que Herbert Spencer, pour lui, la société, dans sa forme militaire,
évolue,
elle se dissout.
Oui.
Et progressivement, la société industrielle, c'est fondamentalement une société économique, où la théorie économique rend compte, l'équilibre des volontés individuelles rend compte de ce qui se passe.
Là, on est un peu dans un modèle de monade, c'est-à-dire, la monade, c'est un mot qui a été employé par Leibniz pour dire une espèce d'entité qui n'a besoin de personne d'autre, qui est tout à fait
qui
autonome.
Qui choisit entièrement souverainement les gens avec qui il veut parler.
Et qui fait des contrats avec les uns et les autres,
voilà.
En pleine souveraineté.
Et en l'absence de tribunaux, de forces de police, qui vit dans le vide, avec les uns, avec les autres. C'est la société d'un réseau flou qui se déploie constamment.
Donc il y a quelque chose d'un peu angoissant, on peut se dire que ça peut être un peu chaotique tout ça, mais
c'est
de toute façon Durkheim n'a pas cette vision. Il dit oui, nous avons des individus qui ont une forme d'autonomie, mais ne vous y trompez pas. Ils sont pris dans un énorme organisme,
absolument,
extrêmement organisé, et c'est ce tout qui a permis que la partie soit en apparence si libre. Vous pouvez m'expliquer ça ?
Bien, une des forces de l'ouvrage de Durkheim, c'est de montrer que les régulations sociales ne s'effacent pas dans les sociétés modernes. Au contraire, elles se ramifient, elles se complexifient. Et cette complexification des régulations sociales, c'est pour Durkheim ce qui fonde aussi la reconnaissance et la liberté des individus. Et pour Durkheim, plus le droit est compliqué, plus la liberté individuelle est grande.
Alors, précisons cela. En plus, j'étais un peu surprise, je ne vous cache pas, parce que Spencer, il a quand même théorisé la société comme un grand organisme.
Mais oui, tout à fait.
On est d'accord.
Ouais.
Hein. Simplement, Durkheim va en faire autre chose.
Un super organisme même.
Alors, vous qui vous intéressez, Mélanie Plouvier, au vocabulaire de Durkheim, qu'est-ce que c'est ce type de solidarité, puisqu'il parle ainsi, qui existe dans les sociétés modernes, sans laquelle il n'y a pas d'individu. L'individu n'est pas une force radicalement centrifuge. Il est, dans sa liberté même, un produit de lien, et il parle alors d'une solidarité organique. Qu'est-ce que c'est ?
Vous avez entièrement raison de lier ensemble solidarité organique et individu moderne. Alors, la typologie durkheimienne sépare les sociétés en deux blocs. Il y aurait les sociétés dites à solidarité mécanique, où les individus sont solidaires parce qu'ils pensent similairement. C'est une solidarité par la similarité.
C'est-à-dire qu'on agit. C'est l'ancien régime, c'est les villages, les corporations.
Ce sont les sociétés, dites premières, avec les clans totémiques, mais ce sont également, au fur et à mesure de l'histoire, les sociétés anciennes, l'antiquité.
De caste.
Et ce que Durkheim avance, c'est que progressivement, le rapprochement par la similarité fait place à une autre forme de solidarisation des individus par la différenciation. Nous agissons avec ensemble dans la modernité, non pas parce que nous pensons similairement, mais parce que nous pensons différemment. Et le fait structurant, la cause motrice de cette transformation, c'est pour Durkheim la division du travail. Le fait que les individus se différencient, se spécialisent par leur métier, hein, essentiellement, et par là même deviennent des individus. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que la forme individuelle est une production sociale. C'est un produit de l'évolution morphologique
et de
des sociétés.
Et le truc génial qui est quand même la division du travail.
Exactement.
Au passage, nous avons fait une série sur le travail et qu'est-ce que c'est que la valeur travail. Durkheim a une réponse. Elle est fondamentale.
Elle est fondamentale,
c'est
elle
grâce
est constitutive
à elle
de notre individualité.
Nous sommes complémentaires.
Exactement. Et vraiment, je crois qu'il faut bien prendre la mesure de l'affirmation durkheimienne. Il ne dit pas simplement que l'individu est un individu social, c'est-à-dire qu'il serait socialisé. Il nous dit que la forme même de l'individualité est une production sociale, c'est-à-dire un produit historico-social tardif, qui intervient tardivement dans l'évolution de l'humanité. L'homme ne s'est pas toujours pensé comme un individu.
Alors, en même temps, c'est un peu un anti-Marx, au sens où la société industrielle a été géniale pour Durkheim. Elle a permis à chacun d'avoir des tâches propres qui le singularisent, mais sans que ce soit la lutte des classes explosive avec un potentiel chaotique et révolutionnaire. Au contraire, ça marche incroyablement bien. Au-dessus de tout cela, il y a un état cerveau, en quelque sorte, cerveau de ce grand organisme qu'est la société. Là aussi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu, Claude Didry.
Alors, anti-Marx, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Si vous regardez Le Capital, enfin le début de la partie sur la plus-value absolue, avec ce passage phénoménal sur le travail, l'homme qui s'affronte à la nature, qui se découvre dans son intelligence, l'abeille et l'architecte, ce sont des choses qui sont quand même, chez Marx, importantes. Et je crois que dans la lecture de Durkheim, précisément, on peut avoir une pensée critique. Et on l'a à la fin de la division du travail social, avec les divisions pathologiques, la division anomique, la division contrainte, justement, du travail contrainte.
Donc il peut y avoir des mal-donnes, des excès. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas un chaos structurel menant à des phénomènes révolutionnaires comme chez Marx?
Chez Durkheim, il y a des assemblées révolutionnaires malgré tout.
Oui.
Il y a, par exemple, pour l'analyse du fait social, un exemple récurrent qui revient dans plusieurs textes de Durkheim, jusque dans les formes élémentaires de la vie religieuse, qui est la thématique de l'assemblée. L'assemblée des, à la fois des fidèles dans une religion, l'assemblée des citoyens dans la révolution qui proclament de nouvelles normes.
D'accord. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Durkheim, il écrit après la Révolution française,
Absolument.
Après toutes les révolutions du 19e siècle. Donc, il a quand même l'impression qu'on a
atteint... On ne peut pas faire l'économie de ça.
Mais qu'on a atteint une étape stable, Mélanie Plouvier.
C'est pas parce que c'est stable que ce n'est pas dynamique.
Oui.
Voilà. Donc, il y a incontestablement un prisme unitaire par l'échelle prise par Durkheim, qui est celle du social, de la société. Mm-hmm. Pour autant, une société se compose de sous-groupes. Il peut tout à fait y avoir des tensions entre ces différents groupes sociaux. Il peut y avoir surtout, et là on revient à la définition du fait social, des conflits de valeurs, des conflits de règles. Et donc, on n'a pas, bien que tout cela se passe au sein de cette unité qu'est la société, ce n'est pas un sans dynamisme, deux sans conflictualité.
D'accord. Alors maintenant, on va se concentrer sur cette notion de fait social que Durkheim définit particulièrement clairement dans ce livre qui s'appelle « Les règles de la méthode sociologique » en 1895. Il suggère une pression extraordinaire de la société, y compris pour que nous soyons les individus singuliers et différenciés que nous sommes. Et évidemment, on va retrouver un point que nous avons déjà évoqué, il le montre par la négative. Vas-y, n'applique pas la règle sociale, tu vas voir ce qui va se passer. Écoutons ce début des règles de la méthode sociologique, le chapitre 1.
Il y a dans toute société un groupe déterminé de phénomènes qui se distinguent par des caractères tranchés de ceux qu'étudient les autres sciences de la nature. Quand je m'acquitte de ma tâche de frère, d'époux ou de citoyen, quand j'exécute les engagements que j'ai contractés, je remplis des devoirs qui sont définis en dehors de moi et de mes actes dans le droit et dans les mœurs. Alors même qu'ils sont d'accord avec mes sentiments propres et que j'en sens intérieurement la réalité, celle-ci ne laisse pas d'être objective, car ce n'est pas moi qui les ai faits, mais je les ai reçus par l'éducation. De même, les croyances et les pratiques de sa vie religieuse. Le fidèle les a trouvées toutes faites en naissant. Le système de signes dont je me sers pour exprimer ma pensée, le système de monnaie que j'emploie pour payer mes dettes, les instruments de crédit que j'utilise dans mes relations commerciales, les pratiques suivies dans ma profession, etc., fonctionnent indépendamment des images que j'en fais. Non seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l'individu, mais ils sont doués d'une puissance impérative et coercitive en vertu de laquelle ils s'imposent à lui, qu'il le veuille ou non. Sans doute, quand je m'y conforme de mon plein gré, cette coercition ne se fait pas ou se fait peu sentir, étant inutile. Mais elle n'en est pas moins un caractère intrinsèque de ces faits, et la preuve, c'est qu'elle s'affirme dès que je tente de résister. S'agit-il de maximes purement morales ? La conscience publique contient tout acte qui les offense par la surveillance qu'elle exerce sur la conduite des citoyens et les peines spéciales dont elle dispose. Dans d'autres cas, la contrainte est moins violente. Elle ne laisse pas d'exister. Si je ne me soumets pas aux conventions du monde, si, en m'habillant, je ne tiens aucun compte des usages suivis dans mon pays et dans ma classe, le rire que je provoque, l'éloignement où l'on me tient, produisent, quoique d'une manière plus atténuée, les mêmes effets qu'une peine proprement dite.
Alors vous êtes enseignant, vous connaissez, je crois, comme moi, la perplexité des étudiants face à ce texte et en général l'objection immédiate. Enfin, la société, c'est les individus. Alors pourquoi est-ce que la société fonctionne sur nous comme une chose extérieure qui nous contraint ? C'est nous qui la faisons. Alors ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous répondez à vos étudiants, vous, Mélanie Plouvier, quand ils vous disent ça ?
Alors effectivement, dans ce texte, hein, Durkheim nous donne les deux critères, les deux indices permettant de repérer ce qu'est un fait social, de différencier des faits qui ne sont pas des faits sociaux. Le premier critère, c'est l'extériorité. Le fait social est extérieur, nous dit-il, aux consciences individuelles, et l'attestation de cette contrainte, de cette extériorité, pardon, c'est la contrainte. Seulement, il faut bien regarder, c'est ce que je réponds à mes étudiants, ce que nous dit Durkheim. Il nous dit, les faits sociaux, ce sont des manières d'agir, de penser et de sentir, qui sont extérieures et contraignantes. Mmh. Des manières de penser, des manières de sentir. En d'autres termes, des choses qui sont en nous, des représentations. C'est précisément cela, le social.
Donc il y a de l'extérieur à l'intérieur.
Exactement. C'est-à-dire que la représentation du social durkheimien comme entièrement extérieur aux individus, elle résiste pas, en fait, à la strate ontologique qu'il est en train de désigner, qui est un ensemble de représentations. Et quel est le caractère vraiment fascinant de ces représentations ? C'est que ce sont des représentations qui sont en moi, oui, mais qui ne viennent pas de moi. Et le critère, hein, que les durkheimiens vont utiliser pour rendre compte de cette présence de la société en nous, tout en nous demeurant extérieur, c'est le préétablissement. Je les trouve toutes faites. Le social, c'est ce qui est en moi, déjà tout fait, déjà là, en amont de moi.
À vous maintenant, Claude Didry. Que répondez-vous à vos étudiants qui ne comprennent rien à ce texte de Durkheim ?
Moi, ce texte, effectivement, il est sur les quatrièmes de couverture des règles de la méthode, etc. Il est extrêmement familier et en même, oui, temps, il peut paraître d'une platitude absolue qui soulève, disons, cet antagonisme de l'individu et du déterminisme social, de la liberté et du déterminisme, si vous voulez. Mais moi, je réponds qu'il le veuille ou non. l'individu, il peut vouloir aussi le fait social. Et précisément, l'éducation conduit à ce que, ayant subi cette pression du fait social, il parle. Mais il parle de manière volontaire. Et il oublie le fait social.
On oublie qu'on a été constitué par d'autres. C'est ça que vous dites ?
Voilà. On oublie qu'on a été constitué par d'autres. On oublie qu'on a été éduqué. On acquiert des mécanismes. Le piano ne tombe pas du ciel. On est obligé de faire ses gammes, de passer par le solfège. Enfin, il y a une dimension de torture de l'enfant que Durkheim assume dans ce texte.
C'est pareil, qui a l'air plus simple. On se dit, c'est vrai, c'est incroyable. N'importe quel enfant né n'importe où dans le monde, au bout de quelques années, il parle la langue de l'endroit où il se trouve. Oui, mais en fait, c'est quelque chose, une pression qui s'est exercée sur lui.
Voilà.
C'est ça ?
Où l'on rencontre cette dimension de contrainte qui s'oublie aussi dans le mécanisme que l'on acquiert et qui devient un élément, une base, un soutien de liberté. C'est-à-dire parler, c'est aussi s'exprimer soi-même à partir des mécanismes que l'on a acquis dans la vie sociale.
Alors évidemment, il y a des enfants sauvages, Mélanie Plouvier, mais justement, ils ne parlent pas. Il y a plein d'exemples historiques, donc ça a beaucoup excité les écrivains et les chercheurs. Mais justement, ils ne parlent pas. On ne parle pas naturellement. On a besoin de la pression d'un groupe social, ne serait-ce que pour être l'individu que nous sommes.
Oui, et de ce point de vue, alors il faut faire attention tout de même, parce que le social chez Durkheim ne se réduit pas à des actes d'éducation compressive. Hein. Et il y a une sociologie de l'éducation chez Durkheim qui ne va pas exclusivement dans ce sens. Il n'en reste pas moins que effectivement le social en nous, cette strate particulière, ces représentations qui sont en nous, elles nous constituent dans ce sens où elles sont constitutives de, par exemple, notre capacité à parler. Si on prend l'exemple du langage ou à jouer du piano, si on prend un autre exemple. Pour autant, vous voyez, par exemple, on a pris l'exemple du langage, on a pris l'exemple de l'acquisition quasiment par dressage liée à l'éducation. Mmh. Mais le social est aussi constitutif de notre de ce que nous sommes
et de nos rôles sociaux.
Alors de
père, mère, enseignant.
Exactement, c'est ce qu'il donne ici ma tâche de frère, d'époux, de citoyen. Mmh. On pourrait même dire que le social est plus fondamentalement constitutif de ce que nous sommes, puisque le fait même, par exemple, que nous, individus modernes, nous nous pensions comme des individus, cela est un produit social également.
Est-ce que nous croyons souvent très fortement comme étant des valeurs qui nous transcendent, relèvent d'une transcendance, là c'est vraiment Durkheim qui parle, qui est à l'intérieur de nous, qui se donne de manière immanente, je le cite, mais qui en fait a une origine transcendante? Et ce qui nous transcende, c'est pas Dieu, c'est la société.
Et je crois qu'il y a là une dualité constitutive du social. C'est-à-dire que c'est tout à la fois ce qui est extérieur à nous, ce qui nous transcende. La société est plus que nous. Par là même, je la trouve toute faite en moi.
Oui.
Mais c'est aussi ce qui m'est immanent. Et Durkheim complète en fait sa définition du fait social par une polarité. Ça me contraint, mais ça m'attire aussi, ça m'élève.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La contrainte sociale, selon Émile Durkheim, c'est de cela que nous parlons ce matin avec Claude Didry et Mélanie Plouvier, deux très bons spécialistes de Durkheim. Et c'est dans le cadre d'une série qui s'intitule cette semaine, que nous vous proposons, « Comment la société pèse-t-elle sur les individus ?» Alors nous venons de voir avec ce texte extrêmement célèbre de 1895, extrait des règles de la méthode sociologique, texte de Durkheim, que la société agit sur nous à notre insu, elle nous a constitués, et il y a donc quelque chose d'extérieur qui est là en nous, quelque chose de transcendant qui est là de manière immanente à l'intérieur de nous, et que c'est cela qui est le point nodal de la pensée de Durkheim. Jusqu'où cette pression s'exerce ? Vous savez comme moi que son gendre, Marcel Mauss, qui est aussi un très grand sociologue, a prolongé cette affaire en notant que notre corps, notre psychisme et même notre motricité physique sont incroyablement marquées par le social. C'est pour ça que quand on apprend à nager d'une certaine façon dans un pays, on aura bien du mal plus tard à changer notre manière de nager. Puis, par contre, pour la manière de marcher, ça peut arriver qu'on imite, par exemple, certaines actrices au cinéma, du cinéma américain, alors qu'avant, on marchait comme des Français. C'est les exemples de Marcel Mauss. Donc, Durkheim avait déjà l'intuition, n'est-ce pas, Claude Didry, que le social nous marque de manière très profonde.
Oui, tout à fait. Et si je me permets de revenir sur ce texte pour en saisir la profondeur, moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est la première personne. Quand je m'acquitte. Et moi, j'y vois aussi une manière de regard sur soi. Enfin, si vous me permettez l'expression, et avec un contresens, parce que je ne suis pas de la corporation, si vous m'excusez, j'y vois un cogito sociologique, pour vous le dire franchement, c'est-à-dire une sorte de retour sur soi-même, où précisément l'on redécouvre la présence de la société en soi.
Voilà, et du coup, peut-être une non-souveraineté du sujet, contrairement à ce que croyait Descartes, précisément.
Mais peut-être qu'il découvre Dieu, Descartes, en revenant sur lui-même.
Comme par hasard, alors que Durkheim découvre le social. Oui. Alors, je voudrais qu'on aille vers une œuvre qui est tout à fait stupéfiante, qui montre très bien jusqu'où ça va, la pression sociale. En effet, en 1897, Durkheim a écrit un livre qui s'appelle Le suicide. Et c'est un livre essentiel qui montre que, bien sûr, il y a des déterminants psychologiques du suicide. Oui, il ne le nie pas. Il y a aussi des choses qu'on ne comprend pas dans les suicides. Mais il affirme qu'il y a des déterminants sociaux, des facteurs qu'on pourrait dire suicidogènes, qui favorisent un passage à l'acte suicidaire. Raymond Aron, dans « Les grandes étapes de la pensée sociologique », disait à quel point c'était génial ce livre, parce que s'il se trouve que le phénomène du suicide est commandé par la société, alors Durkheim aura prouvé, je cite Aron, sur le cas le plus défavorable à sa thèse, la vérité de celle-ci. Que veut dire Aron là, Mélanie Plouvier ?
Je crois qu'il désigne assez précisément le point de fascination qu'exerce l'ouvrage Le suicide. Qu'est-ce que fait Durkheim avec cet ouvrage ? Il prend effectivement, il va à l'endroit le plus dangereux pour lui ou qui peut le plus mettre en péril sa théorie, à savoir, il va dans l'intériorité psychique des individus et jusque dans cette décision ultime et incroyablement intime de se donner la mort. Il va dans l'intimité individuelle et ce qu'il démontre au fur et à mesure des pages du suicide, c'est que cette décision intime qui se joue dans l'intériorité, soi-même face à soi-même, en fait, relève d'une causalité sociale. Alors, il faut cependant faire attention. Il ne nous dit pas que le fait que cet individu-ci prenne cette décision plutôt que tel autre, il ne dit pas que cela est relève d'une causalité sociale. En d'autres termes, il n'explique pas pourquoi c'est tel individu et non tel autre qui
prend cette décision et passe à l'acte. Mais il y a des facteurs.
Par contre, ce qu'il nous dit, c'est que l'on observe au niveau, en un sens agrégé, des variations sociales des taux de suicide. En d'autres termes, il se passe dans des sociétés, dans les sociétés, il y a ce qu'il appelle des courants suicidogènes qui relèvent d'une causalité sociale. Donc c'est pas la, en un sens, c'est pas la décision, enfin le fait que ce soit tel individu ou tel autre. Par contre, je pense que le moment où on cerne le mieux ce caractère social du suicide, c'est dans, par exemple dans son affirmation qui a vraiment fait scandale, selon laquelle le suicide est un phénomène social normal.
Pas tout en même temps, c'est très compliqué. Mais il y a une chose, peut-être, je vais essayer de le dire d'une autre façon et vous demander de l'expliquer à vous aussi, Claude Didry. Bon, le fait que le suicide soit une chose sociale, c'est-à-dire que, par exemple, pour un exemple classique, des gens qui habitent dans des communautés religieuses ou villageoises très intégratrices ont moins de probabilités de se suicider que des gens qui vivent dans un isolement social important. Pour prendre un exemple très classique. Évidemment, ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est la statistique qui nous le révèle. Autrement dit, le fait que le suicide soit un phénomène social, en tout cas avec une dimension sociale très forte, c'est l'instrument statistique qui nous le révèle.
Oui, tout à fait. C'est là où on touche un autre aspect de la contrainte qui n'en est plus une, d'une certaine manière, dans ce que Durkheim appelle les courants sociaux, c'est-à-dire ces forces qui vont habiter les individus et que la statistique, en lien avec l'observation de l'État sur la société statistique, permet de mettre au jour à travers des régularités, des variations lentes de ces faits sociaux à travers ce que la statistique nous en donne. Mm-hmm. Le suicide, pour Durkheim, apparaît comme un fait social à travers tout un appareillage statistique qu'il nous présente dans le livre premier de l'ouvrage.
Hein. Oui, c'est là qu'il dit c'est fou, il y a plus de suicides chez tel ou tel type de personne que chez d'autres.
Et dans certains pays, enfin les pays protestants par exemple, oui, se suicident plus que les pays catholiques.
Oui, pourquoi?
L'hypothèse avancée par Durkheim, c'est cette dimension intégrative des rites religieux du catholicisme par rapport à un intellectualisme du protestantisme.
Ce qui nous conduit directement aux trois grands facteurs suicidogènes selon Durkheim. Alors il y en a deux qui ont à voir avec l'intégration insuffisante ou excessive de l'individu à un groupe. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que les adjectifs de Durkheim sont effrayants. Il n'aurait jamais dû appeler les cas qu'il évoque de cette façon. Parce qu'alors là, on ne comprend presque rien. C'est très dur à enseigner, notamment. Mais enfin, ça s'appelle comme ça. Ceux qui sont plutôt mal intégrés à un groupe ont des probabilités de passage à l'acte suicidaire plus grandes que les autres. Et il parle alors de suicide égoïste. Ça va pas du tout, mais ça veut dire que quoi? Alors quoi, Mélanie Plouvier?
Alors, je pense que justement l'enjeu c'est de réussir, ouais, à comprendre pourquoi il qualifie ce type de suicide lié donc à un défaut d'intégration d'égoïsme. Précisément parce que ce qui est en jeu dans ce type de suicide, c'est le fait d'être attaché à des idéaux sociaux qui élève l'individu. Et dans le cas du suicide égoïste, l'individu est attaché à lui-même, mais se détourne de ce social en lui, si vous voulez. Mm-hmm. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que Le Suicide est un ouvrage assez fascinant si on y réfléchit en termes de contraintes, parce que il ne donne pas tant à voir la contrainte qui s'exercerait sur les individus et qui les pousserait à se suicider que ce qui se passe quand l'individu éprouve ou rencontre un défaut de socialisation.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe?
Et bah précisément, il peut se retrouver là. L'exemple du suicide égoïste, c'est précisément cela. C'est-à-dire que l'individu se trouve dans une situation où il n'est plus attaché à des valeurs sociales. Mmh. Et c'est cela en fait qui le pousse au suicide. Donc plutôt que, si vous voulez, le suicide égoïste est moins l'attestation que le social contraint, parce oui, que d'un seul coup,
que la contrainte n'a pas assez bien
voilà,
marché.
N'a pas assez bien marché.
C'est ça. Voilà. Alors, bon, je voudrais savoir si ça est toujours vrai. Il se trouve que Christian Baudelot et Roger Establet, sociologues, en 2006, ont écrit un livre qui s'appelle « Suicide, l'envers de notre monde ». Ils ont aussi écrit en 2011 « Durkheim et le suicide ». Et ils disent une chose troublante. Longtemps, les femmes au foyer se suicidaient moins le jour où leur enfant n'était pas à l'école et donc le jour où elles devaient jouer leur rôle de mère au foyer qui était extrêmement intégrateur. Et donc c'était à l'époque le jeudi. Et ce qui est génial, c'est que quand ce jour de repos des enfants est passé au mercredi, c'est statistiquement le jour où les femmes au foyer ont eu le plus faible taux de suicide. Merci de nous éclairer, Claude Didry. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
En tout cas, ça veut dire que l'ouvrage de Baudelot et Establet porte sur une actualisation des données de Durkheim. Enfin, d'ailleurs, on peut critiquer le suicide sur ces données qui sont un peu anciennes dans le livre premier. Mais ce que font Baudelot et Establet, c'est de montrer que sur le long terme, les choses tiennent d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a des formes de stabilité et des évolutions très lentes du suicide et qui vont concerner les différents groupes sociaux. Alors, en l'occurrence, le choix des femmes est tout à fait intéressant.
Le choix, c'est extraordinaire quand on dit le choix de son jour de suicide. Oui.
Et le choix du jour de suicide, mais aussi le fait de s'intéresser dans le cas de Baudelot et Establet au suicide des femmes. Car précisément, oui, dans le suicide, absolument, les femmes sont les absentes.
En tout cas, chez Durkheim. Chez Durkheim. Mais ils appliquent un concept durkheimien. Ils disent au fond, voilà, c'est le suicide égoïste, si mal nommé, enfin, je me permets de le dire. Mais en fait, c'est ça. C'est quand notre rôle social est fort et protecteur, nous sommes bien intégrés ce jour-là. En l'occurrence, je suis mère au foyer, j'ai des choses à faire. C'est pas ce jour-là que je vais choisir pour me suicider. À l'inverse, si tout le monde est très intégré, par exemple un dimanche ou un jour de Noël, et que moi je me retrouve tout seul, j'ai aujourd'hui encore des chances importantes, si j'ai des tendances suicidaires, à passer à l'acte ce jour-là.
Oui, et c'est vrai qu'on retrouve aussi cette dimension familiale que Durkheim attache au suicide égoïste. C'est-à-dire que la densité familiale protège du suicide égoïste, et réciproquement, le célibataire se suicide davantage que le marié. Voilà. Et c'est valable, je crois, pour les femmes aussi. Enfin, c'est assez... Alors, ajoutons juste que le suicide égoïste est aussi le suicide de l'intellectuel.
Toujours vrai, ça ? Ils sont pas intégrés, ça, les intellos ?
Ça, je ne sais pas s'ils sont intégrés aujourd'hui, sans doute plus. Mais disons que dans les analyses de Durkheim, le suicide égoïste revient comme le suicide de l'intellectuel par rapport à ce suicide. Vous m'autorisez à en parler ?
Mais allez-y, ça, c'est passionnant. On est dans Avec philosophie, on va quand même parler des philosophes. Voilà. Ils se suicident plus que les autres, alors ?
Non,
ce que vous
ils se suicident d'une manière différente. Les philosophes sont pris dans le suicide égoïste.
Ah bon.
Alors il évoque les épicuriens, les stoïciens, il ajoute l'anarchiste, l'esthète, le mystique, le socialiste révolutionnaire.
Et pourquoi alors?
Alors il nous dit, s'il ne désespère pas de l'avenir, s'entendre du moins avec le pessimisme dans un même sentiment de haine ou de dégoût pour ce qui est, dans un même besoin de détruire le royal ou d'y échapper. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans ce suicide égoïste de l'intellectuel, c'est l'idée que l'intellectuel n'échappe pas à la causalité sociale. Ça, c'est déjà un constat assez fort, je trouve, pour les philosophes.
Parce que sa façon de travailler le fait un peu sortir du monde dans lequel il vit.
Peut-être, oui.
C'est ça qu'il dit ?
C'est un peu ça qu'il dit. Et puis, il est aussi possible que sa façon de travailler le conduise parfois à une forme de rejet du monde. Qui le pousse dans une forme... Alors là, ce suicide serait plutôt une forme de dépression par rapport à un suicide anomique qui serait un...
On y vient, parce qu'on a beaucoup de concepts anomiques.
Parce qu'il faut...
Mais c'est très bien, très intéressant.
Hein, donc,
alors voilà. D'abord, assez vite, qu'est-ce que c'est que le suicide altruiste, Mélanie Plouvier ?
Alors, c'est l'envers de suicide égoïste, c'est-à-dire c'est le suicide qui procède, qui s'explique par un excès, cette fois-ci, d'intégration. Le suicide égoïste, c'est celui qui relève d'une intégration insuffisante. Le suicide altruiste, celui qui relève d'un excès d'intégration. C'est-à-dire... Et les exemples donnés par Durkheim sont ceux des suicides dans le cadre, par exemple, des sectes ou encore dans le cadre de l'armée. C'est-à-dire que l'individu est à ce point intégré au groupe qu'il s'oublie lui-même jusqu'à se tuer.
Donc, ça veut dire que la chose sociale qui est en nous, pour parler comme tout à l'heure, nous incite à ne pas nous protéger biologiquement, physiologiquement, alors que normalement, on pourrait penser que le social en nous est protecteur. Hein, c'est pour ça que pour le suicide égoïste, ça protège, au contraire. Mais parfois, il y a des injonctions sociales qui poussent à se faire du mal, voire à se tuer. Et quand on est trop fusionnellement dedans, dans la secte, dans certaines communautés religieuses, on passe à l'acte. C'est ça, le suicide altruiste.
C'est cela, c'est du... Alors, c'est vrai que c'est surprenant qu'on trouve cela chez Durkheim. Mais en un sens, c'est du social en excès.
Bon, alors maintenant, passons au fameux suicide anomique qui renvoie à cette question difficile de l'anomie avec philosophie très soucieux des concepts. L'anomie, c'est pas une mince affaire. On y va, on écoute le texte de Durkheim, un extrait du suicide qui porte donc sur le suicide anomique.
Ce que l'homme a de caractéristique, c'est que le frein auquel il est soumis n'est pas physique, mais moral, c'est-à-dire social. Il reçoit sa loi non d'un milieu matériel qui s'impose brutalement à lui, mais d'une conscience supérieure à la sienne et dont il sent la supériorité. Seulement, quand la société est troublée, que ce soit par une crise douloureuse ou par d'heureuses mais trop soudaines transformations,
elle est provisoirement incapable d'exercer cette action. Et voilà d'où viennent ces brusques ascensions de la courbe des suicides. En effet, dans les cas de désastres économiques, il se produit comme un déclassement qui rejette brusquement certains individus dans une situation inférieure à celle qu'ils occupaient jusqu'alors. Il faut donc qu'ils abaissent leurs exigences, qu'ils restreignent leurs besoins, qu'ils apprennent à se contenir davantage. Or, ce n'est pas en un instant que la société peut les plier à cette vie nouvelle. De là, résultent des souffrances qui les détachent d'une existence diminuée avant même qu'ils en aient fait l'expérience. Mais il n'en est pas autrement si la crise a pour origine un brusque accroissement de puissance et de fortune. Alors, en effet, comme les conditions de la vie sont changées, l'échelle d'après laquelle se réglaient les besoins ne peut plus rester la même. La graduation en est bouleversée. On ne sait plus ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui est injuste. L'état de dérèglement ou d'anomie est encore renforcé par ce fait que les passions sont moins disciplinées au moment même où elles auraient besoin d'une plus forte discipline.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
C'était un extrait du suicide d'Émile Durkheim, lu par Riad Kera de notre équipe. Et cet extrait porte sur le suicide anomique. Si j'ai bien compris, dans les cas précédents que nous avons évoqués, le problème était que l'individu était ou insuffisamment intégré à une norme sociale, soit trop intégré. Si cette norme lui disait de se tuer, bah, il se tuait sans résistance. Là, nous avons un autre problème, c'est qu'il est correctement intégré, mais la norme est malade. C'est ça, Claude Didry, la norme sociale ne cesse de bouger et il n'arrive pas à suivre. Au fond, il se retrouve désintégré, non pas à cause d'une situation structurelle qu'il caractérise, isolement, etc., mais parce que la norme sociale n'arrête pas de bouger. Je crois qu'il faudrait donner un exemple. C'est quoi, le banquier de Wall Street en 1929
hein? Parfaitement, oui, oui.
Qu'est-ce qui lui arrive alors?
Ben, il saute par la fenêtre.
C'est-à-dire que tout d'un coup, il est le roi du pétrole, si j'ose dire. Oui. Il était, et puis là, il se retrouve...
Il se retrouve désespéré et il saute. Mais l'autre exemple que donne Durkheim, alors on peut dire que le suicide... Moi, ce que je trouve intéressant dans le suicide de Durkheim, c'est que le suicide concerne plutôt la bourgeoisie. C'est assez intéressant par rapport aux visions classiques que l'on en a. Parce que l'intellectuel... La bourgeoisie culturelle, pourrait-on dire. Le suicide anomique, c'est un suicide d'une bourgeoisie économique, en un sens.
Mais les classes populaires vont être aussi un moment touchées par ce phénomène de l'anomie qui angoisse beaucoup.
Absolument, absolument.
Expliquez-nous, pourquoi ça l'inquiète et qu'est-ce que ça veut dire, le risque anomique dans nos sociétés modernes?
Le risque anomique dans nos sociétés modernes, c'est le manque de régulation. C'est pas l'absence de régulation, c'est le manque de régulation et de reconnaissance d'un élément qui va apparaître dans la division du travail, qui va apparaître dans le suicide. C'est le manque de régulation qui entoure l'activité du travail, dont on a vu qu'elle était cruciale pour le développement de la société. Il est crucial, ce moment du travail, mais il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu à sa juste place.
Il bouge, c'est-à-dire dans les valeurs, les normes n'arrêtent pas de bouger. On nous demande d'accélérer, de changer. On était dans une profession très reconnue, 20, et 20 ans plus tard, elle ne l'est plus. C'est ça l'anomie?
Ça peut être ça, mais c'est aussi le fait qu'on a des attentes démesurées. C'est-à-dire qu'on n'a pas de blocage. Je pense que... Pardon.
Non, pas du tout. Je finissais votre phrase, je vous en prie.
Je voulais dire que l'anomie, c'est aussi l'absence d'horizon professionnel.
D'accord.
C'est-à-dire le fait d'accomplissement. Je pense que l'idéal que Durkheim nous donnerait ici, c'est le statut du fonctionnaire, celui de la promotion, de l'attente de choses imaginables, et non pas du coup de poker et du jeu social dans lequel nous embarque l'anomie du boursier.
Donc le jeu de poker, le coup de poker, risque pour Durkheim de devenir la curieuse norme de nos sociétés. Et donc les normes sociales avaient des effets stabilisateurs et qui étaient bonnes pour le développement individuel, elles risquent de bouger sans arrêt avec des injonctions permanentes, différentes, renouvelées. Et c'est ça qui est dangereux, Mélanie Plouvier?
Alors, L'anomie, c'est vraiment le défaut de régulation, voire de réglementation. Et je trouve extrêmement intéressant que ce soit effectivement dans l'ordre économique que cette anomie se déploie selon Durkheim. Hein. C'est le cas dans la division du travail social, mais c'est le cas également dans le suicide. On voit les exemples qui ont été donnés sont des exemples de faillite ou de prospérité économique. C'est bien dans l'ordre économique que se joue, dans la modernité, l'anomie pour Durkheim. Qu'est-ce que vise à nous dire Durkheim ici ? Et ce qu'il nous dit, c'est que la vie sociale moderne se déploie pour l'essentiel dans le travail, dans le cadre du travail. Nous passons le temps le plus important de notre vie à travailler. Et ce qu'il déplore, c'est que c'est dans cet ordre économique et dans ce monde du travail qu'il y a le moins de règles. Ce qu'il vise, c'est une situation de dérégulation. Mmh. Et je crois que si on veut bien comprendre ce que vise ce concept qui a fait l'objet de multiples usages d'anomie, c'est précisément cela, le fait qu'il y a un besoin de régulation économique qui appelle un État qui deviendra un État social. Hein. On a besoin. Concrètement, il faut se rendre compte qu'à l'époque de Durkheim, par exemple, le contrat de travail est très peu régulé. Il n'y a pas de droit du travail. C'est ça qu'il vise d'abord.
D'accord. Donc, on pourrait dire que si la norme sociale est à peu près stabilisée, il est normal qu'on ait des individus trop intégrés, mal intégrés, à la limite, le suicide, ce que vous disiez tout à l'heure, Mélanie Plouvier, les suicides égoïstes et altruistes, ils ont quelque chose de normal. En revanche, le suicide anomique, il dit une maladie plus grave du social. Il est du pathologique pour la société. Claude Hydry, ce sera hélas notre dernier mot.
D'accord, mais l'anomie apparaît dans la division du travail pathologique et elle relève effectivement d'une pathologie sociale. Ceci dit, je pense que l'anomie, l'égoïsme renvoie à une place de l'individu dans la société. Et ce que je trouve intéressant, c'est l'opposition entre cette religion de l'humanité qui ouvre à une individualité plus grande et la religion de l'autorité qui caractérise l'armée et le suicide altruiste. Et cette tension entre les trois pôles est aussi la base d'un équilibre. Il ne s'agit pas de tarir l'un au profit de l'autre, c'est créer des déséquilibres. Et donc c'est dans cet ensemble complexe qu'on arrive à quelque chose, qu'on arrive à cette capacité de l'individu à s'individualiser à chaque jour plus fort.
Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il était patriote. Il serait mort du genre d'honneur quelques notes. Et pour quelle raison étrange les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre son image a marqué ma mémoire. Il jouait du piano debout.
France Gall, il jouait du piano debout. Ça ne vous dérange, chante-t-elle. Bah oui, c'est pas la norme, hein, nous dirait Durkheim. Mais en même temps, En même temps, ça nous séduit, sinon elle n'aurait pas écrit cette chanson. Enfin, c'est pas elle qui l'a écrite, mais elle ne la chanterait pas et ça ne nous serait pas resté avec autant de bonheur. Merci Mélanie Plouvier et Claude Didry pour vos analyses sur Durkheim. Il est temps de retrouver Frédéric Worms. Cette semaine, il nous parle de l'abstrait et du concret. Voici le pourquoi du comment.
Comment la morale peut-elle être concrète? On reproche souvent à la morale de reposer sur des principes universels qui manquent les situations concrètes des êtres humains. Ainsi, Charles Péguy reprochait-il à la morale de Kant d'avoir les mains pures, mais parce qu'elle n'avait pas de mains, parce qu'il aurait dégagé des principes universels qui manquent d'un côté les choix tragiques des individus plongés dans des situations concrètes où ils doivent arbitrer entre des intérêts contradictoires et les situations collectives aussi, les situations politiques qui ne reposent jamais simplement sur l'impératif catégorique, par exemple de ne jamais traiter autrui seulement comme un moyen, mais aussi comme une fin, de respecter les droits des êtres humains, les grands principes de la morale, mais qui reposent aussi sur des arbitrages très concrets. Oui, il faut parfois sacrifier tel ou tel pour sauver le plus grand nombre. Oui, il faut parfois commettre des injustices au risque, tragiquement dénoncé par les frères Karamazov, au risque de trahir la conscience humaine, et certains d'entre eux vont choisir plutôt de laisser détruire le monde plutôt que de sacrifier la justice. Fiat justitia, pereat mundus, que la justice advienne même si le monde doit disparaître. L'abstraction de la morale peut aller jusqu'à la destruction du monde. S'il faut respecter les principes abstraits, alors on est entraîné au sacrifice total du concret. Le divorce de l'abstrait et du concret ne va jamais plus loin que dans la morale et dans la vie humaine, peut-être plus loin même que dans l'abstraction mathématique ou l'abstraction théorique que l'on reproche parfois aux sciences, alors même qu'elles rejoignent le réel dans leurs applications. Le problème d'une morale concrète est donc le problème fondamental de la vie humaine. Or, il y a deux moyens pour la morale de redevenir concrète, et ces deux moyens sont absolument fondamentaux. D'un côté, c'est de revenir vers les cas individuels, vers l'expérience tragique, parfois l'expérience clinique aussi, comme on parle d'éthique clinique, comme des grands principes doivent toujours être au chevet d'un patient pour une décision difficile dans l'éthique médicale. Il y a alors non pas un abandon de l'abstraction, mais un retour vers le concret dans toutes ses dimensions. Le concret, ce n'est pas le simple, c'est le complexe. Je dois tenir compte à la fois du soin, de la souffrance, mais aussi de la liberté, mais aussi des relations entre les êtres, entre des contradictions de la vie humaine. Le concret passe par l'abstrait pour saisir toutes les contradictions d'une situation individuelle. Et puis d'un autre côté, la morale ne peut devenir concrète qu'en devenant, disons le mot, historique et politique. Dans les années 30, mais aussi tout au long du 19e et du 20e siècle, la critique d'une morale abstraite passe par la redécouverte de l'histoire, la redécouverte des enjeux économiques et politiques entre les êtres humains, ce qui ne signifie pas l'abandon de l'abstraction, mais sa confrontation avec, là aussi, toutes les dimensions de l'expérience humaine. On peut tenir, par exemple, les cahiers pour une morale de Jean-Paul Sartre, qui ont été beaucoup critiqués parce qu'ils n'ont jamais été achevés à la suite de l'être les néants et de la Seconde Guerre mondiale, comme l'effort vers une morale concrète. Pour Sartre, en effet, les principes abstraits de la liberté devaient s'incarner dans une société, devaient passer par la politique, devaient passer par la transformation globale de la société. C'est ce moment de déchirement de son œuvre entre l'existentialisme et le marxisme, ce moment de tremblement où il fallait concilier une morale abstraite et une histoire concrète, peut-être le moment le plus grand dans cette hésitation, car la vraie question, c'est en effet comment la morale peut-elle, mais aussi doit-elle être concrète ?
Nos émissions peuvent être retrouvées sur radiofrance.com. Merci à notre réalisateur Yad Kera avec à la technique aujourd'hui Étienne Rouche. Cette émission a été préparée en particulier par Anna Feulpin. Merci, merci à toute l'équipe. Marine Boudelier, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.